Les podcasts du Collège de France, littérature.
Dans notre effort pour analyser la relation entre les novas occitanes et les chansons des troubadours auxquelles elles sont si étroitement liées, nous avons d'abord envisagé les novas comme développement des chansons, développement des situations, en somme, qui sont en germe dans les chansons. Et j'ai pris l'exemple de la fameuse nouvelle du perroquet, Las novas del papagay, que nous avons analysée la semaine dernière. Maintenant, et pour terminer, puisqu'une fois de plus, je me suis laissé prendre par le temps, nous allons envisager aujourd'hui les citations des chansons de troubadours dans les novas et l'usage qui en est fait, la poétique particulière qui s'en dégage. C'est le dernier point que nous pourrons traiter, et encore bien vite, et une fois de plus, à travers un seul exemple. Je le rappelle, les novas ne se veulent pas, ne prétendent pas être un commentaire explicatif des chansons qu'elles citent, comme le sont les razos que nous avons étudiés l'an dernier. Et pourtant, elles jouent partiellement ce rôle. Les citations des troubadours qu'elles insèrent confirment le discours du poète et celui des personnages, et en même temps, l'histoire confirme et parfois éclaire le discours ramassé, quelquefois obscur, souvent obscur, de la chanson. L'exemple général le plus net, mais qui n'est pas emprunté aux novas, qui est dans un ordre purement démonstratif, est celui qu'offre le bréviaire d'amour de Mafr Hermengaut, dont nous avons déjà parlé d'autres années, et particulièrement sa dernière partie, le périlleux traité de l'amour des dames, où dans lequel Mafr Hermengaut cite des troubadours qui se plaignent de l'amour et d'autres qui le louent et qui disent la joie qu'ils en tirent et fondent une doctrine de l'amour sur cette confrontation des citations. Mais aujourd'hui, nous allons nous attacher à un cas plus particulier, mais aussi plus ambigu, où la comparaison entre la citation de la nouvelle et le texte original de la chanson, pour autant que l'expression même de texte original ait un sens, mais il s'agit d'une strophe pour laquelle il n'y a pas de manuscrit à manuscrit de variante très significative, de sorte qu'on peut la considérer en elle-même. Donc, un cas où la comparaison entre la citation de la chanson telle qu'elle apparaît dans la nouvelle et le texte de la chanson tel que nous l'avons d'autre part dans les manuscrits réserve des surprises et prête à commentaires. Et ce cas est celui qu'offre la nouvelle du catalan Raymond Vidal de Besalú, qui commence ainsi. En aquel temps qu'on era gais, et per amor fis everais, quendes et avinens esquei, au temps où l'on était gai, et grâce à l'amour, sincère et vrai, aimable et de manières avenantes. C'est une des plus célèbres parmi les novas. Une telle, il faut dire qu'elles ne sont pas très nombreuses, comme nous le savons. Une telle entrée en matière place le récit qu'elle ouvre dans un passé idéalisé, à l'époque où l'on savait aimer et avoir les bonnes manières liées à la vie de cour et à l'amour. Et cette situation est renforcée par le fait que le point de casuistique amoureuse qui est au cœur de la nouvelle, et dont je vais reparler dans un instant, est tranché à la fin par Hugues de Mataplana, qui avait été le protecteur de Raymond Vidal. Or, ce grand seigneur catalan, favori du roi Pierre II d'Aragon, était mort parce que je suppose que la nouvelle est postérieure à la mort d'Hugues de Mataplana pour la raison que je vais dire dans un instant. Donc, Hugues de Mataplana, favori du roi Pierre II, enfin un des favoris du roi Pierre II d'Aragon, était mort en 1213 des suites des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Muret, cette bataille de Muret où le roi Pierre II lui-même a été tué. D'ailleurs, ça n'empêche pas le fils de Pierre II, le roi Jaume le Conquérant, le conquérant de Majorque, qui a écrit des mémoires qui sont un texte extrêmement intéressant parce que c'est une des rares autobiographies médiévales et une autobiographie princière. Jaume dit qu'à Muret, il cite dans ses mémoires Hugues de Mataplana parmi les seigneurs catalans qui auraient déserté le champ de bataille et pris la fuite en abandonnant son père, qui allait être tué. Mais Hugues de Mataplana a peut-être pris la fuite, mais enfin, il avait eu le temps d'être suffisamment blessé pour en mourir peu de temps après. Et Raymond Vidal a écrit une autre nouvelle, enfin, qui est sans doute de lui, Abril Sissi et Maïs Intrava, au sortir d'avril et à l'entrée de mai, et qui est une nouvelle très, très longue, très confuse, qui n'est pas. Qui est peut-être la plus ennuyeuse de toutes les novas. En fait, ça n'en fait rien. Et ce texte fait également l'éloge de Hugues de Mataplana et de sa cour, et lui a été composé avant 1213, parce que le roi Pierre II y est présenté comme vivant. Nous connaissons déjà Pierre II, vous savez, c'est ce Pierre II d'Aragon que Raymond de Miraval, dans sa chanson, essaye d'attirer à l'ombès, pour ceux qui se rappellent la raso de Raymond de Miraval, et ensuite, pour admirer le charme d'Azalaïs de Boissaison, et puis une fois que le roi Pierre II est à l'ombès, il admire tellement les charmes d'Azalaïs que dès le premier soir, il couche avec elle, et d'après la raso, Raymond de Miraval en est très triste, tandis que si on regarde juste la chanson, on a plutôt l'impression qu'il il servait d'entremetteur. Enfin, je ferme cette parenthèse. Donc, Pierre d'Aragon nous est connu. Il était d'ailleurs très connu comme homme à femme. Et son fils le dit. Son fils, au début de ses mémoires, dit « Voilà, mon père s'est trouvé engagé dans ces histoires politiques du Midi, c'est pas le Midi, c'est le Nord pour lui, c'est l'Aragon, mais enfin, tous ses seigneurs lui montraient qui sa femme, qui sa fille, alors que vous le connaissez, il tombait dans le panneau et il se lançait là-dedans. » Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors, Abril Sissi et Maïs Intrava est antérieure à la mort de Pierre II. En revanche, et bien que En aquel temps qu'en era Gaïs, qui va nous occuper, ne comporte aucun élément objectif de datation, le ton nostalgique des premiers vers, là, le regret de l'époque où l'on était gai, où on savait vivre, et cette façon de dire que l'histoire qu'il va raconter se place à l'époque où l'on savait vivre, et cette histoire met en scène Hugues de Mataplana, cela laisse entendre que la nouvelle a été écrite après sa mort et après ce désastre de Muret, ce désastre du point de vue méridional, dont on peut dire, sans grande exagération, qu'il a marqué le déclin de cette vie en poésie qui avait été celle des cours méridionales et de la société troubadouresque. Vous savez, enfin, c'est un épisode tellement connu, au début de ce qu'on appelle la croisade albigeoise, le roi Pierre II d'Aragon, qui avait joué un jeu politique au départ assez compliqué, en essayant de rester neutre. Il était donc apparenté au comte de Toulouse, Raymond VI, mais il était en très bons termes avec le pape Innocent III, a fini par se trouver lié et a pris la tête d'une coalition, d'une expédition destinée à combattre l'armée du Nord, l'armée des Croisés, commandée par Simon de Montfort. Et donc, il est remonté vers Toulouse et à 10 ou 15 kilomètres au sud de Toulouse, à Muret, il a affronté l'armée des Croisés. Ça a été un désastre retentissant. Le roi a été tué ça a marqué à long terme la victoire définitive du Nord. Alors, je reviens à cette nouvelle qui compte l'histoire suivante. Un chevalier de la région d'Excideuil, en Limousin, là, ce qui montre l'étendue géographique, enfin, montre l'unité, en quelque sorte, de ce monde de la poésie et de l'amour. Donc, un chevalier de la région d'Excideuil, pauvre mais doté de toutes les vertus courtoises et chevaleresques, aime une dame. Elle l'accepte pour son soupirant et pour son chevalier servant, et donc il est son soupirant officiel, mais elle ne lui accorde aucune faveur. Et il l'aime et il la sert fidèlement pendant de nombreuses années sans jamais rien demander. Et un jour, pourtant, il la requiert d'amour de façon un peu plus pressante. Elle s'en tient pour offensée et elle le chasse. Et alors, une des suivantes de la dame qui a assisté à la scène ou qui sait ce qui s'est passé, entame alors la conversation avec ce malheureux chevalier. Elle le plaint d'avoir été si maltraitée et elle lui propose d'être son amie à la place de la dame. Ben, elle sera moins cruelle que la dame. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on peut s'étonner, même si le roman de Chrétien est nettement plus ancien, que, à ma connaissance, cette nouvelle ne soit guère invoquée pour éclairer la relation très étrange, ou pas si étrange que ça, entre Yvain et Lunette. Le fait que tout le chevalier au lion est construit de telle façon, est raconté de telle façon que cela va vers des amours Yvain-Lunette qui n'ont jamais lieu, n'est pas Yvain aime l'autre. Non, ferme la parenthèse. Donc, elle se propose pour être l'amie moins cruelle du chevalier, marché conclu. Mais, enfin, marché conclu. À ce moment-là, la dame entre en fureur. Elle veut reprendre son amie, mais le chevalier ne l'entend pas de cette oreille, il est très content avec la demoiselle. Elle veut reprendre son amie, elle accuse la demoiselle qui est sa suivante, donc dont elle est la supérieure, en somme. Elle accuse la demoiselle de le lui avoir volé et elle exige qu'elle le lui rende. Et devant le refus de la demoiselle, elle porte l'affaire devant Huc de Mataplana. Alors, il y a une sorte de cour d'amour, Huc de Mataplana écoute chacune, reconnaît la valeur des arguments échangés de part et d'autre, mais il finit par rendre un jugement favorable à la dame à qui la demoiselle devra rendre son ami. Alors, je passe d'ailleurs sur ce jugement qui, nous, ne nous satisfait pas totalement. On n'est pas, instinctivement, nous jugerions différemment, ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour la représentation de l'amour et pour ce que signifie l'amour à cette époque. Alors, mais ce n'est pas cela qui m'occupe ici. Cette histoire et les débats auxquels elle donne lieu sont nourris et confortés par de nombreuses citations de troubadours. Et ces extraits poétiques sont utilisés par les différents personnages pour appuyer leur point de vue. Chaque fois, la citation est présentée comme telle et son auteur est chaque fois nommé. Comme dit Messire un tel, comme dit Bernard de Ventadour, comme dit Messire Rimbaud, que nous verrons, etc. Donc, il n'y a aucun rapport avec l'utilisation dissimulée ou allusive d'une tournure ou d'un effet poétique, comme le plus de Bernard de Ventadour devenant le surplus de Marie de France, comme nous avons vu récemment. La méthode rappelle plutôt l'utilisation des citations scripturaires ou patristiques dans la prédication et dans l'exégèse. C'est ce que fera d'ailleurs, quelques décennies plus tard, à la fin du siècle, ma frère Mango, qui est soit franciscain, soit dans la mouvance franciscaine, quoi qu'on ait dit récemment dans le sens inverse, et qui, dans son vaste ensemble, ce bréviaire d'amour, qui est une sorte de traité à la fois spirituel et édifiant, en vers, puisqu'il envisage toutes les catégories de l'amour et toutes les formes de l'amour, eh bien, soutient son propos avec des citations, comme on a l'habitude de le faire dans dans l'exégèse, dans la disputatio scholastique pour appuyer les arguments, dans la prédication. Et là, alors qu'au Moyen-Âge, donc, l'art oratoire est presque exclusivement l'art de la chair, eh bien, on a l'éloquence de la chair, on a là un exemple d'éloquence juridique dans le cadre amoureux, une éloquence de l'avocat, mais qui fonctionne de la même façon, simplement ce ne sont pas les mêmes citations, on cite des troubadours. Donc tout ça est très clair. Mais les extraits de chansons des troubadours ne servent pas seulement l'argumentation, comme il semble à première vue. Précisément parce que l'histoire est présentée d'entrée de jeu comme une histoire du passé, ces extraits permettent aussi de recréer l'atmosphère et le ton d'un monde disparu. Et c'est peut-être même leur fonction principale. En un sens, la fonction démonstrative, argumentative, la fonction de soutien des arguments échangés devant les juges Cahuc de Mataplana, ou de soutien des arguments échangés entre la dame et le chevalier, entre la dame et la demoiselle lors de leur dispute, puisque la nouvelle est constituée par un tissu de disputes amoureuses à coloration juridique, eh bien, le rôle que jouent les citations dans ces débats, le rôle argumentatif, est au fond un leurre. Et ce qui est vraiment important, c'est de citer les troubadours. Et dans cette atmosphère de crépusculaire où ce monde des troubadours s'éloigne, c'est au moins l'impression que veut donner l'auteur de la nouvelle, eh bien, c'est un moyen de les faire revivre. Ces citations ont une fonction proprement poétique, parce que ce sont des citations de poèmes et parce que c'est ce monde révolu qu'elles doivent à nouveau rendre présent. Alors, dit de façon générale, comme ça c'est très joli, quand on regarde dans le détail, il est certain que beaucoup d'entre elles se bornent à rappeler les vieux préceptes de la morale courtoise. Par exemple, la première, au vers 47, on présente très longuement le chevalier, l'auteur présente très longuement le chevalier, explique qu'il n'est pas riche, mais qu'il est tellement courtois, tellement valeureux, etc. Et il cite un vers de Bernard de Ventadour, « Amor segon ricor novai, l'amour ne va pas selon la richesse. » Et vous voyez, chaque fois, il cite, il dit, bon, il n'était pas riche, mais dès le premier jour, la dame l'a retenu pour son soupirant, « Ken Bernardis de Ventadorn, amor segon ricor novai. » Parce que Bernard de Ventadour, amour ne va pas selon richesse, donc on reconstitue, on justifie le choix de la dame à partir de la citation du poète. Et cela vient au milieu de l'évocation de la situation idyllique initiale. Le chevalier pauvre aime la dame, elle l'aime en retour sans soucier de sa pauvreté, car amor segon ricor novai. Cet amour, l'amour qu'il reçoit de la dame, augmente encore sa valeur, il lui confère valeur et noblesse, et la noblesse se voit dans les actes, seconde citation, comme le dit Perdigon, « En parage d'un connos qui oumaire, maskenaria namae selke miest capt, je ne connais rien à la noblesse, sinon que celui qui en a le plus se conduit le mieux. » Et c'est pourquoi ce chevalier, mu par l'amour, ne mène pas une vie oisive et douillette, mais affronte les dangers et s'illustre au combat. Alors vous voyez, on a une description au départ, donc ça paraît d'une banalité à pleurer, un état des lieux, une description de la situation, soutenue par ces deux premières citations, le chevalier qui a toutes les qualités mais qui est pauvre, mais ça ne fait rien, la dame le retient pour son soupirant parce que l'amour n'a rien à voir avec la richesse. Et le et lui a la vraie noblesse, et celui parce que la vraie noblesse se juge au comportement et non pas seulement à la naissance, même pas à la naissance. C'est un vieux topos du Moyen-Âge, hein, que la vraie noblesse est la noblesse du cœur et non pas la noblesse de la naissance. C'est une sorte à la fois d'alibi d'une société aristocratique et d'alibi d'une société chrétienne, hein, qui se justifie comme ça. Oui, à la noblesse, mais la vraie noblesse, etc. Et ainsi, bon, ce chevalier, entraîné par l'amour, n'est pas recréant. D'ailleurs, on est recréant d'amour quand la dame vous offre quelque chose qui vous fait oublier les combats, mais lui, il n'avait rien à oublier et il se bat. Et à ce moment-là, arrive, donc on en est déjà au vers, il y a déjà presque 100 vers qui sont écoulés pour un texte qui n'est pas très long. Et alors vient un extrait d'un troubadour, un extrait plus long, moins attendu, plus complexe en lui-même et dans son contexte, et cet extrait est supposé illustrer ce dernier trait que, mu par l'amour, le chevalier sort de chez lui, ne reste pas dans ses pantoufles et va s'illustrer au combat. Et voici cet extrait. Le voici. Et nos tecpa à l'eit de vout, vestits, pascuts à une départ, ans carguet guerre et regarde, et fes persos vesis à sa haute. Aïsi comme dis en rembaut, et celle qu'em volosir, escoute. Alors, citation de Rimbaud. Permis dans le corps estoute, que à l'aile humile et baute, et sa liaise ton vengest azote, et humestera en loc de voûte, j'en ne pensera d'alremout, mas que manger et tengram caut, et agranom en raimbot. Ne vol qu'aver nom raimbot, los cavaliers, mais beau et belle. Et il ne resta pas comme une statue vêtu et nourri dans son coin, mais il affronta guerre et danger et se lança à l'attaque pour ses voisins, ainsi que le dit Sire Rimbaud, et que celui qui veut m'entendre écoute, m'écoute. Pour madame, j'ai le cœur ombrageux. Dans le contexte, je traduis ombrageux, mais nous verrons que estoute, enfin, ne pose pas de problème, mais a un sens complexe et que tout tourne autour de ce sens. J'ai le cœur ombrageux et avec elle je l'ai, donc pour madame j'ai le cœur ombrageux et avec elle je l'ai humble et joyeux, ou plein d'entrain, nous verrons que Baut pose aussi des problèmes, et si cela ne lui était pas agréable, je resterais comme une statue et je ne penserais à rien d'autre qu'à manger et me tenir au chaud, et j'aurais nom Sire Rimbaud. Alors Raymond Vidal reprend. Le chevalier ne voulut pas avoir nom Rimbaud, mais bon et beau. Comme si c'était un signal, beau et belle. Donc, la strophe citée est extraite d'une chanson de Rimbaud d'Orange, Bonne ses chaïk en bon accord chant qui chante arsaï. Il convient que dans une bonne cour chante celui qui sait chanter. Mais vous voyez qu'elle est liée par les rimes au texte de la nouvelle, puisque Raymond Vidal ajoute ce vers qui est une cheville, et celle qui me vole osir m'escoute, et que celui qui veut m'entendre m'écoute, pour avoir une rime à estout, premier vers de la strophe, et pour que la strophe soit vraiment intégrée, n'apparaisse pas comme une citation complète, mais soit vraiment intégrée à son propos. De même, la strophe se termine par en raimbot, ne vole qu'aver, non, raimbot. Il y a une rime du même au même qui permet à la fin, là encore, de souder la strophe avec la nouvelle. En même temps, il crée un effet d'écho facile, puisqu'il part de la strophe, en disant au départ, « Il ne resta pas comme une statue et ne stec pas à l'aile de voûte. » Et alors que la chanson dit « Et ou mestera en loc de voûte », et je resterai comme une statue. Vult, c'est vultum, c'est le visage, enfin, c'est, et donc l'image, l'icône, comme le vult de Luc. Et la chanson est intégrée par les rimes et par ce rappel de son texte même à la strophe. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous voyez que dans la citation, là, cette chanson est en octosyllabes comme la nouvelle. Là. Or, Raymond Vidal a modifié la chanson de Rimbaud d'Orange de façon à ce qu'elle soit en octosyllabes dans le maître régulier la nouvelle. La chanson de Rimbaud d'Orange est le maître du trobarclus, de la façon de composer refermée, obscure. Il a été, c'est très connu, il a débattu avec Guiraud de Borneille, qui était l'autre grand troubadour de son époque, de la vie des contemporains, le plus grand troubadour de son époque, qui lui était partisan du trobar léoud, de la façon de composer légère, facile. Guiraud de Borneille disait « Je veux que mes chansons, j'aime bien que mes chansons soient chantées même par les simples gens à la fontaine. » Et Rimbaud d'Orange disait « Bon, ma poésie n'est pas faite pour être divulguée et il faut qu'elle soit obscure. » Donc Rimbaud d'Orange, poète de l'obscur, le poète de la fameuse chanson de la fleur inverse, poète difficile, hermétique, n'a évidemment pas composé sa chanson en octosyllabes, comme ça régulièrement, uniquement en octosyllabes, dans ce vers le plus chantant, le plus facile, ce vers qui sert à tout, ce vers passe-partout, ce vers qui sert à écrire des nouvelles, des romans, n'importe quoi, des vitsins, n'importe quoi. Il a écrit sa chanson en heptasyllabes. Il préférait l'impair. La chanson de Rimbaud est en heptasyllabes, en vers de sept pieds. Et non seulement elle est en vers de sept pieds, mais le deuxième vers de chaque strophe est en vers, est un vers de cinq pieds. Donc entièrement en vers impair et sept pieds avec un second vers de cinq pieds. Et le texte véritable de Rimbaud d'Orange, le voici, et donc placé en regard de celui reconstitué, enfin ou modifié plutôt, par Raymond Vidal. Rimbaud d'Orange écrit « Per mi dons aecor estut et humile baut, car salieis tan fosta zaot, je mesteran loc den vut, que dals tan pensera mut, mas mengerai tem gratchot et agranon Rimbaud. » Et alors, vous voyez, j'ai mis en italique les ajouts de Raymond Vidal. Parmi dons, ai locor estut. Que allei, là il faut ajouter beaucoup, puisque le second vers n'a que cinq pieds. Que allei, l'ai humil et baut. Et salieis don venges d'azaot. Et ou mesteran loc de vout, j'en ne pensera d'altre mout, mais que manger et m'tendra de côte. Et agranon en Rimbaud. Bon. La conséquence des modifications introduites par Raymond Vidal pour insérer la chanson ou la strophe dans sa nouvelle, c'est que le trobarclus elliptique, obscur, bref, rendu rugueux, presque insatisfaisant pour l'oreille par le maître impair, qui retombe moins sur ses pieds, si je puis dire, puisqu'il a un nombre impair de pieds. Ce trobarclus elliptique et obscur est dilué et rationalisé dans un sens désormais obvie, en accord avec celui du contexte où la strophe est insérée Voilà. Et ce qui rend naturel cette reprise, je ne resterai pas comme une statue. Raymond Vidal de Bessalou dit voilà, le chevalier est allé se battre partout, il a couru des dangers, il n'est pas resté comme sage, comme une image, comme une statue chez lui, parce que, comme le dit Messire Rimbaud, pour madame, je suis farouche, orgueilleux, etc., mais avec elle, je suis humble, etc. Et si ça ne lui plaisait pas, je resterai. On reprend exactement. On le fait. Il y a une sorte de symétrie, de miroir entre le texte de la nouvelle, la strophe de Rimbaud d'Orange, et le lecteur se dit, ben oui, c'est exactement ça. Le comportement de ce chevalier est l'illustration exacte, l'application exacte de ce que dit Rimbaud d'Orange, N. Rimbaud, Messire Rimbaud, dans sa nouvelle. Seulement, ce n'est pas ça que disait Rimbaud d'Orange. Et l'ajout le plus caractéristique de Raymond Vidal est celui du vers 2. Ce qui est naturel, encore une fois, puisque c'est le vers court, et que là, il doit ajouter non pas un pied pour passer de l'heptasyllabe à l'octosyllabe, mais trois pieds pour passer de 5 à 8 pieds. Bon. Raymond Vidal, adaptant sa strophe à la nouvelle, écrit Permi dans ailocor estut, premier vers, que allei l'ai humil et baut. Pour madame, j'ai le cœur orgueilleux ou ombrageux, irritable ou encore téméraire, et ou car avec elle, je l'ai humble et joyeux. Bon, c'est encore une fois l'illustration exacte de ce qu'il vient de dire de son propre cru. Le chevalier est devenu un combattant redoutable. Par amour, mais par un amour qui est lui-même humble et obéissant. Avec sa dame, il est humble et obéissant et terrible avec les autres. Bon. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que disait Rimbaud. Que à l'œil, car avec elle, je suis humble et joyeux, car avec elle, c'est un ajout. C'est cela, l'allongement de Raymond Vidal pour passer de 5 pieds à 8 pieds. Le texte de Rimbaud d'Orange, conformément à la pratique du Trobarclus, est laconique et il est agressivement contradictoire. Ce qui est vous voyez, ce Trobarclus qui aime, contrairement à ce qu'enseignera à Malherbe, qui aime les monosyllabes, les agglutinations de consonnes, ce qui râpe l'oreille, ce qui est rugueux, et en même temps, dans la pensée, ce qui paraît contradictoire, ce qu'on n'arrive pas à unifier, ce qui incarne dans les mots les contradictions de l'amour et les tourments de l'âme amoureuse. Eh bien, conformément à cette pratique, le texte de Rimbaud est laconique et il est agressivement contradictoire. Per mi dans aecort estut, et l'heptasyllabe, le rythme impair, laisse tout le temps à l'oreille l'impression qu'il manque quelque chose et qu'il y a une sorte d'abrégement permanent. Per mi dans aecort estut, et humil et baut. Pour madame, j'ai le cœur orgueilleux, humble, joyeusement hardi. Voilà ce qui dit, plein d'un entrain hardi. Parce que baot, c'est cela, enfin on peut traduire par joyeux, mais baot, c'est une sorte d'entrain, d'allant, de bonne humeur, joyeuse, de trop plein d'énergie. Et de hardiesse. Donc, Rimbaud d'Orange ne dit pas qu'il a le cœur orgueilleux d'une façon générale à l'égard de tout le monde, alors que ou parce que il a le cœur humble à l'égard de sa dame. Il ne présente pas ce contraste qui est un contraste, mais qui est un affadissement de la contradiction. Lui, ce n'est pas un contrat, c'est une contradiction. Il dit qu'il exprime. Il dit que pour sa dame, il a le cœur à la fois orgueilleux et humble. et ce que il est orgueilleux, humble, pour l'amour, par amour. Et ce qu'il veut dire, et cela paraît contradictoire, mais en même temps, on comprend si bien ce qu'il veut dire, c'est cela, le Trobarclus. Voilà. Orgueil du cœur dilaté par l'amour, humilité du cœur serviteur de l'amour, qui, dans ce service et cette humilité, trouve sa joie et, avec elle, un élan hardi, cette sorte d'énergie vitale hardie et joyeuse, ce mélange d'audace et de respect tremblant si caractéristique à la fois des amours adolescentes et de l'amour des troubadours. Et c'est tout autre chose. C'est tout autre chose que ce que dit Raymond Vidal. C'est tout autre chose que de dire « Oui, je suis amoureux, alors je tape sur mes voisins, mais avec elle, je suis comme un mouton. » Rien à voir. Non. Du coup, la fin de la strophe reçoit dans la citation de la nouvelle un sens lui aussi différent de ce qu'il est dans la chanson d'origine, bien que Raymond Vidal touche très peu à cette fin. Il se contente d'ajouter chaque fois le pied qui manque pour passer de l'heptasyllabe à l'octosyllabe. Il y touche très peu, mais ce que à l'œil qu'il a ajouté au second vers suffit pour tout changer. Chez Raymond Vidal, le sens soutenu et comme répété par le contexte de la nouvelle, nous l'avons vu, est que s'il ne plaisait pas à la dame que son soupirant soit par amour aussi redoutable aux autres qu'humble avec elle, ce soupirant, alors, n'aurait pas le cœur estout, ne se donnerait pas tant de mal, n'irait pas se battre partout, et il resterait tranquillement chez lui, sans bouger, le dos au feu et le ventre à table. Ce qu'il dit, c'est pour madame, j'ai le cœur donc farouche, etc., mais avec elle, je l'ai humble, et si ce partage, en somme, cette situation ne lui plaisait pas, je resterai immobile comme une statue et je ne penserai à rien d'autre qu'à manger, à me tenir au chaud et j'aurai nom Messire Rimbaud. Alors. Du coup, ce vers final, et j'aurai nom Sire Rimbaud. Alors, Raymond Vidal ajoute Sire, N en occitan, E-N. N, messire, enfin ça, c'est pas un terme vraiment de noblesse, on le trouve employé même pour des gens qui ne sont pas nobles, mais c'est monsieur, si on veut. Un peu plus. Bon. Donc j'aurais nom Sire Rimbaud. Et dans la strophe d'origine, il n'y a pas N, il y a et à granon Rimbaud. N est ajouté pour avoir les huit pieds. Bon. Donc, mais dans ce contexte, je suis pour madame, j'ai le cœur terrible pour les autres et humble avec elle. Et si cette situation ne lui plaisait pas, je ne me donnerais pas tant de mal, je resterais tranquille chez moi, etc. Et j'aurais nom Sire Rimbaud. Ce vers final, et j'aurais nom Sire Rimbaud, qui n'est déjà pas limpide dans la chanson de Rimbaud d'Orange, le poète est de toute façon N. Rimbaud. C'est son nom, Rimbaud d'Orange. Ce vers devient, dans le contexte de la nouvelle, franchement obscur. Le reste de la strophe est comme rationalisé, avec un contraste, mais un contraste rationnel, au regard des contradictions de l'amour exprimées dans la strophe de Rimbaud d'Orange. Mais on finit par buter sur ce vers final, dont on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire. Sauf à comprendre, comme le suggère Suzanne Thiollier-Méjean dans une note, que ce nom de Rimbaud pourrait désigner par lui-même un imbécile ou un rustre incapable de se dépasser lui-même par amour. Alors évidemment, si un Rimbaud c'est un imbécile, tout s'éclaire, comme Michel en allemand. Der Deutsche Michel, c'est pas flatteur. Bon. Mais cette supposition certes adaptée au contexte, mais elle est en fait gratuite. Nous n'avons pas d'autres exemples qui nous montreraient que Rimbaud, non plutôt aristocratique, comme ce nom germanique, ce nom est désigné un imbécile. Elle n'est soutenue que par les deux premiers vers au moment où la nouvelle repart, le contraste entre Rimbaud et Bon et Beau, ce nom de signal dedans, n'est-ce pas ? Il n'avait pas nom, le chevalier ne voulut pas avoir nom Rimbaud, mais Bon et Beau. Dans la chanson d'origine, il en va différemment. Non pas que le vers soit tout à fait clair, mais on croit tout de même, on comprend un tout petit peu mieux. Donc, dans la chanson de Rimbaud d'Orange, pas question pour Rimbaud d'Orange d'avoir le cœur estout d'un côté, humile et baot de l'autre. Donc, farouche, orgueilleux, téméraire d'un côté, humble et joyeusement plein d'un entrain joyeux de l'autre. C'est pour sa dame et uniquement pour elle et à cause d'elle qu'il a le cœur à la fois orgueilleux, humble, plein d'un entrain hardi. Du coup, la supposition qui suit, qui est en gros la même, et si cela ne lui plaisait pas, je resterais tranquille chez moi, etc. Cette supposition ne signifie pas, si cela ne lui plaisait pas, que j'ai le cœur estout en allant me battre partout et contre tout le monde, puisqu'il n'est pas question de cela. Mais ça signifie, si cela ne lui plaisait pas, que j'ai ses sentiments extrêmes et contradictoires à son égard. Autrement dit, si cela ne lui plaisait pas, que je l'aime passionnément. Si cet amour extrême ne lui plaisait pas, eh bien, je vivrais comme un cloporte, sans bouger de chez moi, uniquement soucieux de manger et d'avoir chaud, et alors j'aurais nom Rimbaud, qui est effectivement le nom du poète. Il s'appelle bien Rimbaud. Autrement dit, et là, ce n'est pas la peine d'aller chercher l'hypothèse selon laquelle Rimbaud désignerait un imbécile. Autrement dit, si cela ne lui plaisait pas, que je l'aime passionnément, là, avec toutes les contradictions et tous les déchirements de l'amour passionné, alors je ne serais rien d'autre que moi-même, puisque je ne serai pas arraché à moi-même et transfiguré par l'amour. Et je resterai tout bête chez moi, à manger, à me chauffer, et je serai Rimbaud, ben oui, je suis Rimbaud, j'appelle Rimbaud. Je ne serai que moi. Alors que quand on aime, on est bien autre chose que seulement soi-même. Alors, je dois à la vérité et à l'honnêteté de dire que pour expliquer le vers et agranon Rimbaud, j'aurai nom Rimbaud, certains critiques se sont attachés au fait que, justement, dans la chanson de Rimbaud d'Orange, il n'y a pas N, mais si Rimbaud. Et ils ont suggéré que cela pourrait vouloir dire que s'il menait cette vie douillette, le poète ne serait que Rimbaud et non pas N. Rimbaud. Et en ce cas, et donc, il ne serait pas anobli, en somme, par le N. En ce cas, c'est le N ajouté pour le maître par Raymond Vidal qui ruinerait le sens du passage. Ce qui colle bien, mais trop bien. Je ne crois pas, pour ma part, que l'hypothèse soit la bonne et que le fait, dans la chanson, d'omettre le N, omission rendue nécessaire, puisque ce sont des heptasyllabes, attire suffisamment l'attention de l'auditeur pour qu'il se dise « Oh, mais il s'appelle pas Messire, alors c'est qu'il pense du mal de lui. Enfin, » S'il s'appelle Rimbaud, il dit « Je m'appelle Rimbaud. » Je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est... justement, s'il a, comme il était probable, conscience de son rang social, il n'éprouve pas le besoin de le mettre à tout bout de champ. Là, le roi de France signait Louis, et ça suffisait. Il y a l'un des... Le tout premier Maigret, Maigret repère l'imposture d'une jeune femme qui se fait passer pour une femme de naissance aristocratique et qui a eu des malheurs, parce qu'en parlant de son enfance, elle dit le château. Et Maigret sait ce que dans les romans suivants, il n'aurait pas forcément. Et il sait que quand on est de ce milieu, on dit la maison. Je suppose qu'il en était de même pour Rimbaud d'Orange. Bon. Bref, je récuse l'argument qui me paraît misérable et je m'en tiens à mon hypothèse, qui a voulu être quand même plus belle, n'est-ce pas, si je n'étais pas mu par la passion contradictoire de l'amour, je ne serais que moi-même. En fait, dans toute cette strophe, vous l'avez senti au fait que je revenais toujours, ou je gardais les mots de l'ancien Occitan, où je revenais toujours sur une traduction hésitante. Rimbaud joue sur le sens des deux mots « estut » et « baut », ces deux mots d'origine germanique. Et Raymond Vidal joue à son tour sur le sens de ces deux mots pour détourner le sens de la strophe tout entière. Tout se joue, en fait, sur ces deux mots. Estut, stolk, c'est le mot qui a donné en allemand moderne stolz, fier. Estut, c'est orgueilleux ou téméraire, l'un ou l'autre, avec, on le trouve employé avec spécifiquement le sens d'orgueilleux ou spécifiquement le sens de téméraire, selon les contextes, mais avec toujours la nuance de l'irritabilité et de l'agressivité. C'est presque toujours, pas toujours, mais presque toujours un mot pris en mauvaise part. Balt, c'est le francique balt, c'est un mot qui signifie, comme je l'ai dit, plein d'entrain, joyeux, hardi, le courage sur le versant de la bonne humeur, avec une nuance peut-être de satisfaction de soi-même. Dans les contes d'Henri Pourrac, j'aime tant le garçon qui part avant l'aube, au petit matin, comme ça, dans les montagnes d'Auvergne, en sifflant la youillette, et qui rencontre sur son chemin des ennemis redoutables, et l'amour, et tout ça, dans la bonne humeur et l'élan de la jeunesse, eh bien, il en vient à bout. C'est ça, Baut. D'ailleurs, Père d'Auvergne, Pierre d'Auvergne, troubadour contemporain, utilise ce mot « baut » pour se moquer précisément de Rimbaud d'Orange. Dans sa célèbre chanson « Chantarai d'aquest troubadours », je vais chanter de ces troubadours, et donc il passe en revue de strophe en strophe ses confrères et concurrents, les autres troubadours, pour dire qu'ils sont tous nuls, naturellement, ou pour se moquer de tous, et en terminant en disant que le dernier, c'est Pierre d'Auvergne, alors lui, ça, c'est un grand poète, etc. Bon, lui-même. Et alors, à propos de Rimbaud d'Orange, il dit « El noves es en Rimbauds, qu'es feid son trobar trobauds ». Et le neuvième est Messire Rimbaud, que sa poésie rend trop sûr de lui, trop content de lui. Et dans la strophe d'origine de la chanson qui nous occupe, Rimbaud s'attribue donc les deux formes du courage. La forme de l'excès, estut, l'orgueil qui conduit à la témérité agressive, et baut, l'entrain joyeux et la hardiesse bon enfant. Et entre les deux, paradoxalement, l'humilité. Et là est le paradoxe, de tenir à la fois ces deux formes opposées du courage avec, entre les deux, l'humilité. Tel doit être l'amant, humble, intrépide, fougueux. Humil est tout baut. Et Raymond Vidal, quant à lui, profite de l'agressivité qu'il y a dans Estout pour le mettre à part, pour spécifier que l'amant est Estout à l'égard des autres, mais humble et baut à l'égard de sa femme. Baut, enfin B-A-U-T, je le prononce toujours très mal pour ne pas qu'on croit que c'est beau, le contraire de laine. Baut, alors, ne peut plus signifier que joyeux. Le sens de hardi est de fait exclu par le nouveau contexte, puisque le courage est du côté des autres et de la vie guerrière et dangereuse que mène le chevalier. Et la tension entre baut et humble disparaît en même temps que celle entre humble et estout. Et on voit donc que la strophe de Rimbaud est plus âpre, plus déconcertante. Et l'impression est renforcée par, encore une fois, par le maître impair, les maîtres impairs et le deuxième vers bref. Mais elle a un sens plus plein et finalement plus simple que son avatar adapté par Raymond Vidal à la métrique banale et au contexte de sa nouvelle, avec ce dernier vers qui lui reste un peu irréductible. Et on voit ici clairement l'effet d'une injection de narrativité, si j'ose dire, dans le poème lui-même, puisque le poème subsiste. Le récit ne se contente pas de s'en inspirer ou de s'y référer, même longuement, comme Marie de France peut le faire avec les Les Bretons d'une part, les Troubadours de l'autre. Mais il ne se contente pas non plus de le citer comme une excroissance extérieure à lui-même, comme le ferait une Raseau. Il le cite, certes, mais en même temps, il se l'approprie, il le lit à son propre texte par les rimes, il le lit à lui-même en reprenant et en anticipant une expression qui est celle du poème, immobile comme une statue. Il plie sa métrique à la sienne. Et ce faisant, alors qu'il le modifie à peine, il lui donne un tout autre sens. Et pourtant, il ne s'agit pas du tout d'un pur et simple détournement de sens et de texte pour soutenir une argumentation, ni de la pure et simple dilution d'une strophe lyrique dans la succession des octosyllabes narratifs. Il y a une résistance du poème, parce que la strophe, dans sa version d'origine, et même une fois remaniée, même une fois aplatie en un sens pour s'adapter au contexte, est trop complexe, trop difficile, trop longue, de sens trop enveloppé et trop incertain pour avoir en réalité une véritable utilité démonstrative, comme le vers unique de Bernard Ventadour et de vers de Perdigon qui ont été cités plus haut. L'effort pour en aplatir la forme et le sens, cet effort ne réussit qu'à demi. La succession des couplets d'octosyllabes ne détruit pas tous les vestiges des rimes embrassées qui demeurent un petit peu au cœur de la strophe, qui trahissent par cette rupture avec les rimes plates des octosyllabes, qu'il y a là une citation lyrique, d'ailleurs Raymond ne s'en cache pas. C'est moins la strophe lyrique qui est aplatie que le récit qui trouve, grâce à elle, une ouverture sur l'inattendu. La strophe se plie au récit, et s'il y a poésie, c'est celle du récit faite de ses bifurcations et de ses strates. Et nous avons donc là une situation qui paraît tout à fait banale, tellement courante, une citation de Troubadour dans les Novas, etc. Mais c'est quelque chose qui n'est vraiment réductible à rien. Alors, bon, il faut que je m'arrête et que je conclue très rapidement. Nos analyses au long de ce cours ont été en réalité si fragmentaires et si lacunaires qu'elles ne peuvent guère fonder une conclusion générale, et que je serais bien embarrassé. Heureusement qu'il reste peu de temps, car que dirais-je ? Et ce qui rend cette conclusion générale impossible, c'est que, entre autres choses, c'est que pas plus que les années précédentes, je n'ai pris cette année en compte la forme poétique qui, au fond, pose avec le plus d'évidence la question de la poésie et du récit, de la relation entre la poésie et le récit. Et cette forme, c'est l'épopée, c'est-à-dire, s'agissant du Moyen-Âge roman, les chansons de gestes. Alors, rassurez-vous, je ne consacrerai pas une année supplémentaire à la question de la poésie comme récit, à la file de ça, pour parler des chansons de gestes. Je passerai l'an prochain à tout autre chose, peut-être, ce n'est pas encore tout à fait arrêté, peut-être parlerai-je du Graal, sur lequel je n'ai fait jusqu'ici qu'un seul cours en 2000-2001, que j'ai utilisé comme dernier chapitre dans le livre de 2003, mon livre Poésie et conversion au Moyen-Âge, et je m'étais limité à un problème très particulier, qui était en fait celui de la relation du poème de Robert de Boron avec l'évangile de Nicodème et les conséquences sur la signification du Graal dans la littérature ultérieure. Mais pas rester indéfiniment, ça devient lassant sur poésie et récit, ou la poésie comme récit, mais peut-être une autre année aurai-je le courage de m'attaquer à la question de la poésie des chansons de gestes, n'est-ce pas ? Alors que j'ai peu travaillé ma vie sur les chansons de gestes et que je reste un peu intimidé. En attendant, je suis toujours incapable de fournir une conclusion en forme. Mais j'ai une excuse pour proposer une conclusion fragmentaire. C'est que le dialogue entre le narratif et le lyrique a pour effet presque immanquable d'imposer au narratif une esthétique du fragment. Commentaire d'une strophe, extrapolation à partir de quelques vers, écho de citations explicites ou dissimulées, tranche de vie, bout de poème, récit nourri de l'ombre d'un souvenir, d'un mot cité dans une autre langue, d'un titre. Mais le nom du rossignol en breton ou en anglais, le nom du loup-garou, un titre de lait. Mais la poésie du fragment peut s'étendre au récit tout entier, en fait. On a souvent remarqué que les romans, ou d'une façon générale, les œuvres narratives du Moyen-Âge, ont souvent eu un prologue ou une entrée en matière très soignée, très pensée, obéissant volontiers, scrupuleusement, avec même une application quelquefois un peu trop appliquée, aux règles de la rhétorique. Alors que la fin de l'œuvre est assez souvent en queue de poisson. Vous voyez, notre chante-fable prend fin, n'en sait plus dire. Fin d'Aucassin et Nicolette. On dirait qu'il joue d'une part de l'affectation de la naïveté. Le contraste entre on dit communément qu'en songe n'a que fable, non, ne mensonge, et ce prologue tellement serré, tellement profond, tellement subtil, tellement informé du roman de la Rose. Et 20 000 vers après, attente est jour et je m'éveille. À ce moment-là, il fait jour et je m'éveille. Et c'est fini. Mais ces fins abruptes ont pour effet de donner au récit tout entier l'allure d'un fragment et de lui donner les infinies résonances du fragment. parce que le fragment a des résonances infinies et on en tire parti, que l'on songe à la tendance de la littérature actuelle, contemporaine, aujourd'hui, à écrire des nouvelles sans pointe finale, donc sans leçon, contrairement à ce qui avait toujours été une loi du genre, comme dans toute œuvre brève. La loi de l'œuvre brève, la loi la plus générale de l'œuvre brève, c'est la pointe, la chute du sonnet, la pointe de l'épigramme, la chute de la nouvelle. Mais aujourd'hui, nous lisons des nouvelles comme fragments extraits du quotidien qui tiennent tellement à affirmer leur statut de fragment extrait du quotidien qu'elles n'ont ni début, ni fin, ni queue, ni tête, si je puis dire. La nouvelle comme shortcut. Et vous savez que shortcut est le titre du beau film qui a été constitué à partir d'un montage des nouvelles de Raymond Carver. Et Carver est, à ma connaissance, l'écrivain le plus représentatif de cette tendance, à laquelle on pourrait aussi rattacher Paul Auster, enfin, ce sont souvent des écrivains américains. Et peut-être, compare à la nouvelle classique américaine, la nouvelle des années 40, Chivers, comme ça, Carver, c'est très particulier. Bon. Eh bien, peut-être ces auteurs, enfin, je viens du Moyen-Âge, vous me direz, mais peut-être ces auteurs ont-ils saisi là l'essence de ce qu'est non seulement la poésie du récit, mais la poésie en tant que récit, le fragment. Et au long de ces trois années, nous avons vu que, à quel point c'est une poésie que le Moyen-Âge n'a pas ignorée. Et avec une mauvaise foi que je ne cherche pas à dissimuler, j'y vois une justification à achever de façon abrupte ces considérations fragmentaires. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.